This is the joint meeting of the ICANN board and the SSAC in the auditorium room on October 20th, 2015, from 6:15 p.m. to 7:15 p.m.
Hello, Rom. Can you hear me? Hello, Rom. Hello, Rom. Are you on the phone line? Oh, I can hear you now. Can you say something again for me, please? Awesome. Thank you. Are you going to be staying on the line now? Okay. Thank you.
Jeff, you're not planning on jumping, are you?
Tripti, why don't you come downstairs? More fun here. This is where the party is.
So is Rom?
Steve Crocker au micro. Est-ce que Rom est au téléphone? Oui, je suis au téléphone. Crocker au micro. Bon. Alors, réunion du conseil d'administration de l'ICANN avec le ESSAC. Nous avons eu nos réunions avec les autres parties de la communauté, mais c'est le moment de la journée où on se réunit avec les gens qui savent comment les choses fonctionnent et comment les choses se divisent. Donc, j'ai entendu une rumeur qui disait qu'il y avait une certaine préoccupation pour savoir s'il y avait suffisamment de représentation ici et si nous allions vous accorder suffisamment d'attention. Alors, j'aimerais demander aux membres du conseil d'administration qu'ils veuillent bien se lever pour que vous puissiez voir de vos propres yeux que nous vous accordons l'attention qu'il se doit. Je vais maintenant passer aux nouveaux membres du conseil d'administration. Leto, Lito, Louise et Ron. Ron est sorti de la salle. Donc voilà, nous sommes ici. Vous avez maintenant la parole. On a demandé à chaque groupe la même question. Vous êtes l'une des organisations qui font partie du CCWG. Donc, la proposition, si l'on part du principe que cette proposition va arriver, vous sera présentée et vous aurez à la ratifier ou à la rejeter ou à la modifier. Alors, nous avons Trick Folstrom au micro. Nous avons deux membres ESSAC au CCWG, à savoir Liman Chapin et Julie. Steve Crocker au micro, oui, je suis sûre qu'il y a certainement un bon flux de communication. Donc, vous savez très bien ce qui s'y passe et il n'y aura pas vraiment de surprise. Crocker au micro, oui, effectivement, on a passé une heure cet après-midi à parler de cela. On nous a fait rapport sur les différentes questions où on souhaitait avoir tout le soutien du ESSAC. Sur ce qui allait se passer sur les réunions de demain. Alors, micro, je vais céder la parole. Je vais vous céder la parole maintenant pour passer au vif du sujet. Alors, Patrick Folstam, merci. Nous avons le président du ESSAC et plusieurs membres du ESSAC. J'aimerais que les membres du ESSAC se lèvent dans la salle. Suzanne, tu devrais te lever aussi. Alors, il y a trois points qu'on aimerait aborder. D'abord, le suivi des avis du conseil d'administration. Ensuite, le deuxième point, l'espace des noms uniques. Et le suivi du SAC 063. On va commencer par le suivi des avis du conseil d'administration. Nous aimerions réaffirmer que nous pensons que ce point est extrêmement important. En effet, il y a un certain nombre de recommandations que nous envoyons au conseil d'administration et au personnel qui ont été reportées, non pas en raison d'erreurs, mais parce que nous, en tant que groupe, avons abandonné les choses. Donc, nous voulons reconnaître cela dans nos discussions. Par exemple, lorsque Steve et moi-même avons partagé des préoccupations par rapport aux avis qui sont retardés pour divers motifs. Donc, pour le prochain cycle de GTLD, il est important pour nous et pour le reste de la communauté d'essayer de voir quel type d'avis le SAC a donné pour le cycle actuel, voir quels avis ont été mis en œuvre, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. On a travaillé en étroite coopération avec David Conrad et aujourd'hui on a une réunion pour voir quels étaient les différents outils qui peuvent être utilisés. Et David, n'hésite pas à me corriger si je me trompe dans la description que je vais faire de cette réunion. La première chose, c'est qu'on a proposé un processus sur la manière de prendre en considération les avis. Nous, au ESSAC, on a tendance à voir les choses de manière inversée. Mais David nous a dit que le processus, c'est la chose la plus importante. Et je suis d'accord avec lui parce qu'ensemble, on a analysé cette question. Ce qui concerne la responsabilité, pour nous, c'est une source de préoccupation. Par exemple, si on regarde le SAC 063, où nous avons pensé qu'il était nécessaire de publier le SAC 063. Il y a d'autres questions qui ont été abandonnées. On ne sait pas où elles se trouvent. On a une recommandation liée au non-domaine internationalisé et au centre d'échange d'informations sur les marques déposées que nous avons publié en juin 2013. Et nous avons demandé une réponse écrite. Et nous avons reçu une réponse d'ailleurs il y a 4 jours. Le personnel dit que c'est difficile de suivre tout cela. Steve Crocker, micro. Oui, j'aimerais vous demander de venir ici, au centre de la table. Moi, on va faire 2 choses. D'abord, je vais vous présenter Lisa King, la nouvelle responsable, vice-présidente des opérations et la raison pour laquelle nous l'avons nommée, c'est de nous assurer que quand on reçoit des avis, il y a un suivi. David a mis en place et supervisé les opérations du suivi des avis qui m'ont été soumises. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous tenir là, au milieu de la salle, pour qu'on vous voit bien. Mélissa est extraordinaire. Alors, ce que vous venez d'entendre, dit de manière très polie, c'est qu'on a écrit le SAC 063, on vous a donné un avis, il ne s'est rien passé. On est revenu, on a écrit le SAC 063 et il ne s'est rien passé. Comment se fait-il? Voilà ce qu'on vous a dit de manière très polie. L'intervenante dans la salle parle sans micro, donc les interprètes ne peuvent pas traduire. Steve Crocker au micro, oui. Ça n'est pas votre faute encore. Mais ce que je veux dire clairement à tout le monde, c'est que nous avons prêté une attention toute particulière au fait que nous n'avons pas prêté suffisamment attention aux choses. Donc, nous avons énormément travaillé sur ce point en nommant 2 personnes. D'abord, nous assurer que le processus et la structure nécessaires étaient en place et on a nommé 1 personne pour s'assurer qu'il y ait un suivi dans chacun des cas, pour ne pas avoir à l'avenir ce genre de conversation. David, est-ce que vous voulez venir? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport où nous en sommes sur ce processus de suivi? David au micro, David Conrad, nous avançons, nous avons eu une réunion avec le secrétariat du GAC hier et nous avons eu une contribution particulièrement intéressante. Et on veut maintenant passer à la phase 2. Donc, on progresse énormément. Je suis très satisfaite des efforts de Lee Anne Champagne et de son équipe. Je pense que c'est quelque chose de très positif qui va en ressortir très rapidement. Donc, c'est en cours. L'objectif, c'est surtout destiné aux administrateurs. Ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir la contribution des différentes AC qui sont engagées dans la fourniture d'avis, en particulier lorsqu'on a un portail qui ne fonctionne plus. en raison d'une mauvaise utilisation du système. Mais une fois que ce portail fonctionne de nouveau, il y aura des gens qui pourront l'utiliser et pourront contribuer à nous éclairer un petit peu plus sur cette question. Steve Crocker au micro. Oui, j'aimerais réunir toutes ces informations et les résumer autant que je peux. Nous voulons arriver à un stade où les avis, qu'ils viennent du SAC, du GAC ou d'autres, même s'il y a des variations et des spécificités, d'après moi, il y a 4 grandes étapes qui ont lieu. D'abord, réception des avis et bonne compréhension pour être sûr qu'on ne le perd pas et qu'on analyse avec responsabilité cet avis. Il ne s'agit pas d'une évaluation, d'un engagement, mais une reconnaissance que cet avis a été reçu. Et ça n'est pas un processus accessoire parce que, en fonction de la manière dont cet avis est rédigé, il va falloir peut-être poser des questions ou pas. Première étape. Deuxième étape, la part concerne, moins visible, mais qui est tout aussi importante, c'est l'analyse et l'évaluation en interne. Est-ce que l'avis peut être mis en œuvre? Quelles sont les ressources impliquées? Et est-ce qu'on accepte l'avis? Est-ce qu'on dit oui, on accepte ceci, mais pas ça? Et ça doit être limité dans le temps. Ça ne peut pas avoir une durée infinie. Et tout ça doit être visible. On pense qu'on est maintenant en position de le faire. Troisième partie, donc, après la phase de mise en œuvre, c'est le plan nominal qui nous dit, voilà, la mise en œuvre va prendre tant de temps. Voilà les principales étapes qu'il va falloir dépasser. Quatrième phase, contrôle final en disant, voilà, on l'a fait. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez en faire quelque chose ou rien en faire? Ou merci, quelle que soit la décision prise. Mais moi, j'espère que nous allons pouvoir faire cela de manière ordonnée. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'espère qu'on va pouvoir y parvenir. Ce qu'a dit David, c'est qu'il y a encore un chemin à parcourir avant que tout ce cheminement puisse avancer de manière fluide. Maintenant, le problème de savoir si on aime votre avis ou pas, ça, c'est un problème tout à fait différent. Mais voilà un petit peu la situation actuelle. Et tout le monde à l'intérieur de l'ICANN sait qu'on a beaucoup insisté là-dessus, qu'il y a un soutien également administratif. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, mais en tout cas, c'est mon point de vue sur cette question. Merci David et merci Mélissa. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Rinalia au micro. Ça n'est pas une question, c'est un commentaire. L'ALAC, dans sa réunion avec le conseil d'administration ce matin, a également soulevé la question du manque de réponse du conseil d'administration à un avis formel. Et ils nous ont rappelé de la TRT 2 et de la recommandation 9.1 qui n'a pas répondu formellement à l'avis en temps et en heure. Et Steve Crocker s'est fermement engagé en disant que ça faisait partie de ses priorités et ça sera inscrit dans les statuts. Parce qu'il y aura certainement une interaction avec les implications de changement dans les statuts de la part du CCWG. Tric au micro. Merci beaucoup de ce commentaire. On sait que il y a eu donc vous avez ajouté un commentaire par rapport à la mise en œuvre de la recommandation du ETRT2. Autre intervenant dans la salle. Oui, je pense que ce processus a peut-être accaparer une bonne partie de la réunion. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir au problème réel? Tric au micro, oui. Donc, on va passer au point suivant. espace des noms uniques. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de sous-titres. Donc, on va vous donner un aperçu général, puis quelques questions, et Patrick va vous donner plus d'informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande différence entre l'espace des noms et le DNS. Le nom des espaces, ce sont tous les noms qui peuvent exister, que vous pouvez représenter, et le DNS, c'est simplement une sous-catégorie de tout ça. Donc, il y a toute une série de sous-catégories qu'il ne faut pas perdre de vue. Par exemple, Apple a son propre protocole qu'il utilise pour trouver des imprimantes, ou iTunes utilise pour trouver de la musique. Et dans le groupe de travail, il y a un certain nombre de systèmes de résolution alternative de noms, ainsi que de ceux qui sont les plus utilisés. Et parce que le DNS est devenu le système prédominant, la plupart des applications comprennent comment gérer les noms de type DNS. Et parce que, en général, ils utilisent les mêmes styles, ils aiment utiliser ces mêmes applications et les mêmes styles. Exemple, alors tout ça, c'est très bien, mais il peut y avoir un conflit. Par exemple, Tor a environ 2 millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers de noms. Il semblerait qu'il y ait 2 millions de demandes par jour pour les noms qui ne sont pas dans l'espace .oignon et qui ne sont pas supposés entrer dans le DNS. Et le problème, c'est si .oignon demande un TLD. Et ça, ça pourrait entraîner un problème. Donc, le problème du RFC 6761, c'est que on réserve ces noms à des fins techniques. L'IETF a décidé d'utiliser ce processus pour le nom d'espace, l'espace des noms, par exemple, .oignon. Donc, l'IETF réserve cet espace pour eux. Mais ce processus n'est pas ne peut pas être étalonné. Donc, on a essayé d'analyser comment coordonner tout cela. L'année dernière, il y a eu justement un débat là-dessus, mais il faut que l'on voit que faire en cas de conflit. Donc, comme je l'ai dit, c'est une question très épineuse. Même au sein de l'IETF, il y a des discussions en cours sur ce que représente exactement l'espace des noms. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Patrick, au micro. Oui, je vais un petit peu accélérer les choses. Je suis surpris et un petit peu préoccupée, en fait. Ce n'est pas votre faute, hein. Mais d'après la présentation et la description qui a été faite, vous aurez compris que il n'y a pas cette préoccupation au sein de l'ICANN uniquement. Il est très important de l'aborder et qu'il y ait une communication avec les autres organisations. Nous, au ESSAC, nous ne voulons pas que cette coopération ou cette non-coopération se transforme en lutte entre l'IETF et l'ICANN pour savoir qui détient l'espace des noms. Et étant donné que l'espace des noms lui-même est distribué de cette manière, il est très important pour le ESSAC que le ESSAC soit ferme et que l'ICANN le soit aussi pour affirmer qu'il n'y a qu'une zone racine et qu'un ancre de confiance unique. Donc, je le répète, une seule zone racine et une seule ancre de confiance. Ça, c'est extrêmement important pour le DNSSEC. Quatrièmement, au ESSAC, nous essayons d'assurer un suivi de cela parce que nous peut-être commençons à travailler sur ces questions de notre côté, mais nous avons des liaisons avec le IETF et le ERSAC, mais nous ne voulons pas que l'ICANN dépende totalement de nous pour détecter toutes ces choses. Donc, si l'ICANN doit lancer quelque travail que ce soit dans ce domaine, l'ICANN doit d'abord envisager de coopérer avec le ERSAC, l'IETF et d'autres pour voir comment faire avancer ce travail. Et lorsque l'ICANN va faire ce genre de choses, à savoir poser des questions à d'autres organisations, y compris poser des questions au SOEAC au sein de la communauté de l'ICANN, il est très important d'encadrer très avec beaucoup de prudence ces questions, parce qu'il y a des considérations techniques ici et politiques. Par exemple, ne pas mélanger les choses lorsqu'on parle du DNS et de l'espace des noms, où le DNS n'occupe qu'une partie, comme je viens de l'expliquer. Je vous laisse maintenant la parole si vous voulez intervenir pour des commentaires. Steve Crocker au milieu. Est-ce que je peux demander à Sherine peut-être d'expliquer un peu plus la teneur de votre explication pour les personnes qui seraient moins techniciennes parmi les membres du conseil d'administration. Mais d'après ce que vous avez dit, j'ai cru comprendre qu'il y a des différences de style. Par exemple, les demandes pour .home, corp ou mail, on a une réponse officielle qui provient de notre division des domaines mondiaux. Et qu'est-ce que ça veut dire que vous allez le faire mais pas maintenant? Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qu'il est important que nous fassions. Trick, merci. Autre intervenant dans la salle, j'ai entendu votre demande de coopération. Sherine Chalabi au micro. Mais ça m'incite à penser, est-ce que ce qui s'est passé récemment, ça vous a amené à formuler cette demande ou bien c'est une demande générale? Non, il n'y a pas eu d'incident, nouvel intervenant au micro, mais à l'IETF, à l'ICANN, Patrick au micro, pardon. On s'inquiète de savoir qui va prendre des décisions à propos des chaînes dans l'espace des noms. Ça, c'est la question la plus importante sur laquelle on n'a pas vu tant de coordination que ça. Et je pense que l'ICANN et l'IETF prennent des décisions sur cette question, mais je vais laisser le soin à Warren de répondre. Warren au micro, oui, il n'y a pas eu d'incident spécifique, mais l'IETF a récemment reçu beaucoup plus de demandes pour réserver des chaînes spécifiques en utilisant des registres spéciaux. Donc, nous ne voulons pas que l'IETF finisse par être confronté à cela de plus en plus souvent, parce qu'il y a toute une série d'implications politiques qui seraient engagées.
Or, au RFC 6761, je crois qu'on fait une analyse ou une déclaration sur les problèmes, c'est ça? Donc, est-ce qu'on introduit une nouvelle politique, de nouvelles questions, ou est-ce que cela permet de créer une collaboration au sein de l'ICANN ou... Ce n'est pas très clair. 6761... C'est en fait basé sur le 2860 qui est relatif au travail technique avec l'IANA. Donc, c'est ce qui permet cette réservation des noms d'utilisation technique. Cependant, le 6761 n'est pas un long processus. Et donc, le groupe de travail DNS a formé une équipe pour savoir comment on peut changer ceci pour avancer. Donc, il serait bien d'avoir le point de vue de la communauté de l'ICANN. Voulez-vous en dire davantage sur cette question de la collaboration? L'intervenant au micro. Oui, il serait peut-être plus utile de laisser parler la personne qui est en train de s'occuper de ce groupe de travail. Suzanne au micro. Et mon amie qui est liaison au conseil de l'ICANN pourrait également chanter et danser avec moi. Danser peut-être, mais pas chanter. Comment ça alors? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, j'ai beaucoup de chapeaux ici, mais en tant que coprésidente du groupe de travail, pas pour le gros travail, mais parce qu'en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il y a très peu de consensus en ce qui concerne la définition des problèmes et ce qu'il faut faire. En termes de processus, le point oignon, la demande pour l'ajout des registres de noms d'utilisation spéciale a été très difficile. Et donc, l'approbation de cette demande a fait que l'USG a demandé au groupe de travail de commencer le processus d'examination du 67-61 de manière à améliorer le processus et à mieux collaborer. Il y a des personnels de l'ICANN qui participent à ce processus. Il y a une proposition préliminaire de l'Internet qui est donc la première, 0.5. C'est le tout début de tenter de résoudre cette question. Donc, il y a une discussion, il y a une collaboration qui devrait se poursuivre. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe de formalité. Nouvelle intervenante au micro. J'aimerais simplement ajouter, comme Warren l'avait dit tout à l'heure, que l'IETF a envoyé une déclaration au conseil d'administration de l'ICANN. La même déclaration a été envoyée à la GNSO pour expliquer que le processus a été démarré, je crois, il y a environ un an, que nous y réfléchissons et que l'IETF encouragerait la communauté de l'ICANN à s'impliquer dans la discussion de cette question avec l'IETF, comme Suzanne vient de l'expliquer. L'intervenant au micro. Les choses deviennent un petit peu complexes, donc, à mon avis, parce que l'action à l'IETF est individuelle. Donc, si vous souhaitez que l'ICANN veuille venir en parler, qu'est-ce que vous suggérez, en fait, nouvel intervenant? Je n'ai pas dit l'ICANN, mais la communauté ICANN. Mais bien sûr, ce que je souhaitais dire, c'était que des personnes de cette communauté viennent en tant qu'individus additionnels en parler avec nous. Dans ce contexte, Je peux vous dire qu'il y a un membre de mon équipe qui fait partie de l'équipe de conception à son titre personnel et non pas en tant que représentant de ce que je fais dans mon équipe. Autre intervenant, la liaison de l'IAB à l'ICANN, effectivement, reflète le fait que nous invitons la participation des parties intéressées, y compris les membres de la communauté de l'ICANN. Wolfgang, au micro. Je fais partie des personnes non techniques du conseil d'administration et j'aimerais comprendre mieux la question. Et je m'excuse si je pose la mauvaise question, mais selon ce que j'ai compris, c'est un petit peu lié à la discussion mondiale sur la fragmentation de l'Internet. Et donc, si on différencie entre l'espace des noms et le DNS, mais si on mélange le DNS avec autre chose, ce que j'entends, c'est un appel à collaboration, mais c'est un obstacle à ce risque de fragmentation si l'espace des noms est fragmenté. Je ne parle pas de l'Internet, mais de l'espace des noms, s'il est fragmenté. Est-ce que j'ai bien compris? Y a-t-il un risque? Et comment est-ce que l'on peut éviter l'intervenant au micro? J'aimerais commencer par expliquer un petit peu, pas trop sur mon micro, j'aimerais expliquer un petit peu comment les choses fonctionne. Nous avons plusieurs systèmes qui utilisent l'espace des noms, dont l'un est le DNS. Jusqu'à maintenant, ces systèmes, nous avons eu de la chance, ont utilisé des chaînes qui auraient pu être différentes, le local, l'Onion, etc. Mais on aurait des problèmes si, par exemple, Onion est à la fois un TLD et s'il était utilisé pour le projet Tor, parce qu'à ce moment-là, on ne saurait pas l'application s'en termine avec l'oignon. Donc, dans l'espace des noms, tout chevauchement dans l'espace des noms, c'est la même chose que les rapports sur les collisions de noms que nous avons donc fait au RSAC, donc au SSAC, pardon. Mais ceci aurait un impact sur les protocoles. Donc, il faut qu'il y ait une coordination lorsque nous attribuons ces chaînes qui sont utilisées dans différents protocoles, de manière à ce que ce que fait une organisation ne permet pas d'attaquer ce que fait une autre organisation, etc. Dans le guide de candidature, l'ICANN faisait référence à l'utilisation spéciale. Non, il y avait donc une liste qui n'était pas autorisée aux candidats. Donc, il y a déjà une collaboration qui existe. Mais là, ce dont on parle, c'est d'intérêt très diversifié, multiple, qui pourrait avoir besoin de faire certaines attributions pour des protocoles différents, mais dans le même espace de noms. Chérine au micro. Vous avez posé une question. Vous avez dit qui va prendre des décisions en ce qui concerne les chaînes et les noms de les espaces de noms. Et je n'ai pas entendu de réponse par rapport à ça. Est-ce que vous souhaitez en parler davantage ou est-ce que vous souhaitez passer au sujet suivant? Alors, à un certain niveau, c'est exactement la question qui existe, qui est sur la table pour l'instant. Parce que suivant qui vous êtes, les preneurs de décision sont plus ou moins bien définis. L'intervenant au micro, merci. Moi, au XXe siècle, j'ai dans la technique, mais ça fait déjà longtemps qu'on en est sorti du XXe siècle. Donc, je prends le problème et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples que ce que vous avez donné en termes d'espace de nom. Donc, de toute évidence, c'est un problème. Et comme vous l'avez dit, nous avons eu de la chance. Et pourtant, lorsque j'écoute ce que les gens disent, j'ai la même préoccupation que Chérine. Je ne vois pas exactement ce qui est recommandé pour l'avenir. L'IETF est une organisation de l'organisation ICANN. Donc, ma solution, ce serait de s'adresser aux personnes qui s'occupent du projet et de leur dire « Mais, père, et selon ce que vous êtes en train de dire... » Attendez, je termine. Selon ce que vous êtes en train de dire, il faut absolument qu'on en parle. Excusez-moi, je déplace simplement les meubles au sein de l'ITF, c'est tout ce que je fais. Et là, c'est beaucoup plus gros comme problème. Georges au micro. Donc, nous avons un problème et il faut savoir comment le résoudre. Et bon, j'admets, je n'ai pas lu le rapport qui fait référence à ça. D'ailleurs, je me sens coupable maintenant, mais il faut quand même y arriver à une solution. Alors, le problème, c'est le CCWG, c'est le PDG, toutes ces questions qui ont occupé beaucoup de place aux réunions du conseil d'administration. Et donc, encore une fois, nous avons un problème et nous le connaissons bien. Mais en tout cas, merci en tout cas d'avoir soulevé cette question. Jim Galvan au micro. J'aimerais dire trois choses par rapport à la question du que faire. Et la raison pour laquelle nous sommes ici, en partie, c'est que pour définir ce que nous allons faire à l'avenir, sont les solutions possibles. Alors, un des messages clés que nous avions ici, c'était qu'il fallait qu'il y ait une collaboration. Alors, pour parler plus concrètement, nous avons l'IETF, nous avons les registres des noms spéciaux, nous avons également une chaîne réservée, pour ainsi dire, qui font partie du guide du candidat. Bien, vous avez deux listes de chaînes qui, en fait, sont, pour ainsi dire, protégées. Alors, que va-t-il se passer à la série suivante? Il y a une question, là. Donc, entre l'ICANN et ce... D'ailleurs, je ne souhaite pas parler de l'ICANN de manière très spécifique. Nous avons l'ATLARGE, la communauté, qui, en fait, définit ce qui se passe au niveau du guide du candidat, etc. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un registre spécial ici et il faut savoir quelle est sa relation avec ce qu'on peut intégrer dans la zone racine et ce qu'on ne peut pas intégrer dans la zone racine. Alors, par rapport à ce qu'a dit Chérine, par rapport à savoir qui prend la décision, eh bien, c'est justement ça la question. Nous soulevons cette question. La question est importante. C'est un de nos messages clés en termes de collaboration, encore une fois. Donc, il y a différentes pays qui vous diront différentes choses suivant qui ils sont. Et ils vous diront qui a le droit de prendre les décisions. Dès que nous avons actuellement deux registres de chaînes qui sont protégés pour... donc, il faut absolument réconcilier le fait que ces deux choses existent. Alors maintenant, un des messages clés, à mon avis, c'est que ce qu'il faut absolument maintenir... c'est qu'il ne doit y avoir absolument qu'une seule racine, sans exception. Et avec le DNSSEC, eh bien, il ne faut qu'il n'y ait qu'une encre de confiance. Et donc, la réponse à ces questions doit respecter ce principe, perdre ce message non plus. Biden au micro. Il serait peut-être bien que Suzanne explique les différences fonctionnelles et comportementales entre quelque chose qui existe dans l'espace des noms de l'IETF, comme le point oignon, et PLD dans le monde ICANN. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est tellement peu défini que les choses ne sont pas claires entre les... Suzanne au micro. C'est exactement ce que disait Warren Hunter. Au début, il a dit c'est un espace assez subtil et compliqué. Moi, j'ai dit il y a très peu de consensus. Ce n'est pas ma définition, pas à donner de définition. Je crois que ce que vous cherchez, c'est en fait le résultat de la conversation. Et je n'ai pas... Je ne connais pas l'avenir. Il y a des définitions qui sont en conflit Je vois. Donc, il y a un problème des chevauchements. Suzanne, c'est en fait simplifier la réponse, mais on peut en rester là si vous souhaitez. L'intervenant au micro. Alors, une des définitions qui n'est pas la bonne, mais qui peut peut-être faciliter la réflexion, c'est que Lacan décide ce qui rentre dans la racine et l'IETF décide ce qui ne peut pas être autorisé dans la racine. Ce n'est pas exactement la bonne définition, c'est une mauvaise définition, mais cela peut aider. Et déjà, voilà, maintenant, Jeff est debout. Steve au micro. Moi aussi, j'aurais bien aimé comprendre ce qui se passe. Et j'ai entendu quelque chose qui, quand même, que j'ai considéré comme critique. Votre définition, Warren, j'aimerais un petit peu la changer un tout petit peu, la modifier un tout petit peu. Nous pouvons à Lacan établir une liste définitive. Quelqu'un, en fait, nous dit « je souhaite être dans la racine », on dit soit oui, soit non. Alors, du côté de l'IETF, il y a un système de permission qui existe. Donc, les gens peuvent créer n'importe quel protocole, n'importe quel système. Et à l'avenir, ils pourront nous dire « dites donc, nous avons travaillé pendant un certain temps, nous avons beaucoup d'utilisateurs, donc s'il vous plaît, protégez le nom. » On ne vous avait jamais demandé la permission. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le point Oignon, le point local et d'autres noms de sociétés. Dans un espace très vaste où on peut prendre de telles décisions et où personne vient, mais de plus en plus l'espace va être dense et donc il y aura des questions, sans doute. Je n'ai encore vu personne du côté de l'IETF parler de cette question de la collision des noms, alors que du côté de Lacan, on part du principe qu'il y aura des conflits. À mon avis, il y a différence culturelle parce qu'il n'y a pas encore eu d'accord sur le contrôle de l'espace des noms et nous pensons que cela est nécessaire. Au micro. Je pense que la discussion a progressé de manière très utile et très intéressante. Alors, maintenant, selon ce que moi je comprends, une tendance actuellement dans la communauté de Lacan à rejeter ces questions difficiles à la communauté parce qu'elles peuvent nous aider. Par exemple, le SAC. Vous nous dites que c'est trop important que ce soit simplement le SAC qui s'en occupe, parce qu'il pourrait y avoir des opinions qui ne se rejoignent pas au sein du SAC. Et donc, lorsque on élargit la conversation, on inclut les intérêts commerciaux, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on obtient un GTLD sans payer? Ou alors, j'ai une marque de commerce et donc, je suis obligée d'obtenir tel ou tel GTLD sans avoir à passer par un processus de cure. Et il y a des gens de l'autre côté qui diront « oui, ce n'est pas transparent, ce n'est pas ascendant et donc il y a un problème d'intérêt public ». Donc, je crois que ceci représentera un excellent test. Comment pouvons-nous être fidèles au modèle qui ne veut pas dire que tout le monde décide, mais en cas que plusieurs points de vue sont pris en considération dans le processus. Mais ce que j'entends également de manière très claire, c'est que la communauté de Lacan doit être davantage impliquée. Le personnel de Lacan doit communiquer davantage avec vous, de manière à ce que nous sachions ce qu'elle pense, mais cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Donc, pour résumer tout ceci, je pense que ceci doit devenir beaucoup plus important en termes de priorité, mais il faut également définir quelles sont les personnes qui seront les personnes de contact avec qui on pourra communiquer. Donc j'imagine que David et Suzanne sont un petit peu les liaisons, mais plutôt que de rentrer dans le feu de l'action pourrait être dangereux, il faut donc continuer d'approfondir nos connaissances là-dessus. Et cette séance est très utile pour ça. Nouvel intervenant au micro, c'est un très bon résumé de la séance. En ce qui concerne le rôle du SAC, par rapport à ce que vous venez de dire sur la séance, je pourrais dire la même chose. Oui, nous prenons ceci en considération du point de vue du SAC, mais c'est un point de vue technique. Et donc, s'il arrive du point de vue technique, nous sommes conscients du fait que cela a des effets secondaires. Et oui, il y aura des cas où on dira certaines choses sur ce sujet ou on nous posera des questions sur ce sujet. Ce que nous disons, eh bien, aura des effets et nous devons les prendre en considération. Nous ne souhaitons pas, au niveau du SAC, nous retrouver dans une situation où il y a une collision de noms où il y a des certificats qui posent problème, encore une fois. Et si nous n'y avons pas pensé, nous, en tant que la communauté mondiale, eh bien, qu'allons-nous faire à l'avenir? Et du point de vue du SAC, tous, nous avons à bien réfléchir à notre responsabilité par rapport à ce qui pourrait se produire. Donc, merci, Mike. Il nous reste 10 minutes. Et je voudrais utiliser cette opportunité de parler des préoccupations relatives au roulement KSA de la zone racine. Alors, j'ai passé un petit peu plus de temps sur les autres points. Et donc, c'était volontaire, Russ, j'ai réduit votre temps de parole. Mais une des raisons pour cela, c'est que ce point fait partie du SAC 063. Donc, vous pouvez le lire dans les deux. Russ, allez-y. Russ au micro. Merci, Patrick. L'administration de nous écouter pendant cette séance, c'est très apprécié. D'une certaine manière, j'ai en fait le point le plus facile à aborder, puisque les choses sont relativement claires. La zone racine du DNS, la zone de l'ICANN, a été signée il y a un peu plus de 5 ans, et donc la clé qui a été utilisée pour signer la zone racine doit donc changer. Ce que l'on appelle dans la communauté technique le roulement de clé. Si vous entendez le terme roulement de clé, c'est en fait de cela que l'on parle. Il y a une clé qui est utilisée pour une fonction qui doit être remplacée par une autre clé de manière à effectuer la même fonction. Alors, il y a une large gamme de niveaux de compréhension par rapport à cet espace de problème, d'une manière générale, et la compréhension du DNSSEC, de la clé qui est utilisée et dont on parle, c'est donc la clé de signature de clé. Alors, la clé de signature de clé est particulièrement importante parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce sont en fait des encres de confiance pour la racine. La partie publique de la signature de clé, c'est en fait l'encre de confiance pour la racine. Donc, toute personne qui utilise le DNSSEC dans le cadre de la structure de normes définies utilise cette clé. Il est donc extrêmement important, lorsque ce roulement de clé se produit, que les choses soient faites de manière très sûre. Et donc, voilà pourquoi nous avons écrit le SAC 63. Nous l'avons publié en février 2013 et la réponse initiale que nous avons reçue une fois que le conseil d'administration avait agi dessus, ce qui nous est revenu, c'était donc une date butoir de mars 2014. Donc, voilà, nous sommes fin 2015. Et personne n'a répondu de manière officielle au SAC, alors que pour nous, c'est une question technique très importante. Dans le rapport, et c'est d'ailleurs la raison ou un important aspect de la publication du SAC 73, c'est donc que justement nous n'avions pas eu de retour là-dessus. Et donc l'étude qui avait été soumise à commentaires publics, finalement, a été liée au document de conception qui avait été publié. Donc j'aimerais parler des 5 points. Parce que je pense qu'ils correspondent aux 5 recommandations initiales. Et donc, un des problèmes que nous voyons, en plus du fait qu'il n'y a pas eu de retour, c'est que le travail qui avait été fait récemment n'avait pas semblé correspondre aux autres activités qui avaient été faites par le passé. Donc, nous ne sommes pas sûrs s'il y a eu suffisamment de communication universelle par rapport au changement du SKS de la racine. Cela ne veut pas dire que ce que nous avions publié en 2013 est parfait, mais il serait quand même utile d'avoir un point de vue sur ce qui est bon et sur ce qui était bon. Alors, les 5 points, nous les avions donc indiqués dans le rapport et nous pensons qu'ils sont toujours importants. Mais ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète, c'est le manque de directives Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, étant donné les délais, je vais m'en arrêter là. Et j'aimerais encourager le conseil d'administration à regarder ce que nous avions écrit avant. Et j'imagine que Ron pourra vous en dire un petit peu plus là-dessus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir donc davantage d'informations, de points de vue de la part du conseil. Steve Crocker au micro. J'ai demandé à Asha, qui est une personne qui n'est pas spécialisée en technologie, de regarder ceci. Alors, j'aimerais appuyer ce que vous venez de dire. Vous avez mentionné qu'il y a un certain historique là-dessus. Nous avons eu une session assez difficile. Je crois que c'était en 2009, donc un an avant la signature de clé. Nous avions donc anticipé le besoin d'un roulement de clé et pour justement s'entraîner. Et donc, nous nous étions dit qu'il fallait le faire souvent, qu'il fallait le faire plus tôt, etc. Et finalement, cela n'a pas eu beaucoup d'impact. Et je pourrais vous dire ce que je pense de tout ça, mais il faut absolument que cette question ait davantage de visibilité. David, est-ce que vous souhaitez parler des processus à l'interne ou Asha peut-être? Asha au micro. Merci Steve. C'est pas que je ne comprends pas la technique, mais une autre technique. Alors merci Russ d'avoir abordé ce sujet et je comprends votre frustration. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a eu une période de commentaires publics qui vient de se terminer. C'était le 5 octobre. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un rapport sur les commentaires faits par le personnel qui a été publié hier. Donc, selon ce que je comprends, le personnel est toujours en train de mettre au point le plan pour le roulement. Donc, les choses ne sont pas finalisées. Nous comprenons vos priorités au plan de roulement. Nous sommes conscients des 5 recommandations. Donc, nous souhaitons mieux comprendre vos préoccupations. Et donc, par exemple, si vous aviez des recommandations sur l'environnement de réseau, sur l'ensemble des tests. Et donc, je vais demander à David de nous faire des commentaires sur les 5 recommandations. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Nouvel intervenant au micro. Il est très clair qu'il y a au moins certains utilisateurs du DNS qui seront affectés, qui ne pourront pas résoudre leur nom. C'est très grand comme changement. Donc, il faut que le conseil soit conscient du risque. Il y a certaines personnes qui vont avoir des problèmes sur l'Internet et cela représente un réel problème en termes de relations publiques. Asha, nous sommes conscients du risque et voilà pourquoi nous souhaitons faire les choses de manière aussi adéquate que possible avec autant de perspectives que possible. Mais donc, je vais demander à David de passer en revue les 5 recommandations. Réponse rapide. Nouvel intervenant au micro. Réponse rapide. Est-ce que nous avons les sous-ensembles spécifiques, les individus spécifiques? Non, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont un point de vue, qui avons différentes perspectives, mais le problème, à la base, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'ensemble de choses vraiment cohésives et bien réfléchies, et même par rapport au travail qui a été fait précédemment à Berlin avec l'IETF, il y a eu une période de commentaires par rapport à ce qui avait eu lieu là-bas, par rapport au SAC 63. Bon, je ne pense pas qu'il soit gêné par ce qui se passe actuellement, mais nous, on aimerait vraiment que ce soit l'ensemble des problèmes qui soient considérés.
Nouvelle personne au téléphone, très brièvement. J'aimerais également un résumé sur le processus et savoir qui a fait quelque chose et qui n'a rien fait. Il est important qu'il soit clair aux yeux des membres du conseil d'administration que la clé pour la zone racine a des conséquences significatives et qu'il existe des recommandations, certaines recommandations spécifiques. Et il est surprenant de voir que ça s'est passé il y a presque un an et demi et que on n'a pas beaucoup diffusé. Steve Crocker, micro, oui. Lorsque on parle en fait en termes de risque, et lorsque je parle de risque, je pense en termes du fait que quelque chose peut se passer ou ne pas se passer. Et s'il n'y a pas de risque, mais ça va faire mal, la question est de savoir combien ça va coûter. En termes de clarté, je suis tout à fait de votre côté pour dire que il faut être clair par rapport au fait qu'il va y avoir un certain niveau de dommages. On ne sait pas quelle va être l'ampleur de ce dommage. Je pense qu'on aurait dû le faire avant. Et je pense qu'il faudrait éviter que la communauté passe à nouveau par cette expérience. Je pense donc qu'il est temps maintenant de faire face à cela. Et je suis ravie que le ESSAC ait choisi de mettre l'accent là-dessus. Et sachez que de notre côté, on va s'assurer de ne pas perdre cela de vue. Achat au micro, oui. Je voulais passer en revue chacune de ces 5 recommandations et vous dire ce qu'on en pense. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il serait bon de les passer en revue. Oui, excusez-nous si on dépasse un petit peu le temps. Alors, première recommandation, l'ICANN doit entreprendre un effort de communication pour faire part des recommandations et processus aussi vite que possible. En l'état actuel des choses, nous sommes sur le point de développer un processus. Donc, il serait peut-être prématuré de parler d'un processus. Nous avons toutefois travaillé pour participer à des forats techniques pour expliquer que nous allons développer la clé. Nous allons faire un roulement de la clé. Nous sommes en train de travailler avec l'équipe de communication de l'ICANN pour développer un mécanisme à beaucoup plus large échelle pour publier des informations sur le roulement de la clé, du KSK, pardon, en termes de calendrier. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on est en train de développer un plan. On n'a pas encore fixé les mécanismes pour que la communauté nous dise quand il va y avoir ce roulement de clés. Ça fera l'objet d'autres discussions. Pour ce qui concerne la recommandation 2, l'ICANN devrait créer un climat de représentativité afin d'analyser les comportements pour résoudre les mises en œuvre et l'environnement du réseau. Nous avons mis en place des tests et je pense que nous les avons mis en place pour pratiquement la totalité de la mise en œuvre du DNSSEC. Et donc ce banc d'essai, on l'utilise pour analyser les comportements. Nous n'avons pas de version précédente de ce logiciel. On en a quelques-unes, mais toutes. On n'a pas une liste complète. Ce que l'on va faire à l'avenir, c'est d'étendre la configuration de réseau. Nous avons toute une série de VM et des racines de bancs d'essai. Donc, on n'est pas en train de procéder à des essais ni à des configurations de réseau inusuelles. Recommandation 3, l'ICANN devrait créer des mesures claires pour des niveaux acceptables de rupture de rupture provenant d'un roulement de clés. Et je serais ravie d'entendre des suggestions du ESSAC afin de fixer des objectifs en termes de mesures qui soient clairs. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par rupture? Ça, c'est mon commentaire personnel là-dessus. Je ne parle pas au nom du conseil d'administration. Je ne suis pas certain de cela. Recommandation 4. L'ICANN devrait créer un développement pour des procédures rollback à mettre en place lorsque le roulement a affecté la stabilité opérationnelle au-delà d'une limite raisonnable. Là encore, définir ce qu'est une limite raisonnable. Pour ce faire, il serait peut-être utile d'obtenir la contribution du ESSAC. Nous devons également analyser les implications du roulement et savoir à quel moment il serait plus problématique de ne pas se retirer. Également, essayer savoir qu'à un certain moment, il ne sera plus possible de se retirer. Donc, savoir ce qu'il faudra faire à ce moment-là. On n'a pas de solution toute faite sur cette question. Recommandation 5, l'ICANN devrait collecter autant d'informations que possible quant à l'impact du roulement de la clé pour fournir des informations ou des contributions sur la planification des roulements futurs. Nous sommes sur le point de déployer des systèmes de mesure pour surveiller la racine et d'autres parties du DNS et tenter d'établir un seuil de comportement. Et lorsque nous allons faire le roulement, nous allons pouvoir utiliser ce système de mesure pour voir quels sont les changements qui se produisent et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce roulement. Il s'agit là donc de choses qui sont en cours pour ce qui concerne la recommandation numéro 3. Et certaines de ces questions ont été examinées par l'équipe de conception, comme Achal l'a dit. Ce rapport va faire l'objet de commentaires publics. Ces commentaires vont être renvoyés à l'équipe de conception et seront utilisés pour aider à modifier le projet de rapport et en faire un rapport final. Il y a des téléconférences, des réunions face à face de l'équipe de conception ici à Dublin. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer à ces réunions. Et normalement, les recommandations devraient être finalisées et devraient être prêtes pour le développement du plan de roulement actuel. Donc voilà un petit peu l'état actuel des choses pour répondre à votre question. Merci beaucoup, David. C'est très utile. Peut-être que l'important maintenant, c'est que on a réussi à vous faire venir ici à la table. C'est une excellente chose. Et nous aimerions qu'à un certain moment, on obtienne d'autres réactions par rapport à ce qui se passe. Mais nous voulions présenter cela et que les membres du conseil d'administration en aient conscience. Achat au micro. Merci, Ross, là-dessus. Je pense qu'on va poursuivre le dialogue là-dessus. Nous voulions, comme David l'a dit, obtenir des informations quant au banc d'essai, savoir qu'est-ce qu'est une rupture acceptable. Donc, on voulait des précisions là-dessus pour pouvoir progresser. Et au sein du conseil d'administration, on est en train de penser à faire de cette question une question prioritaire pour le comité de risque. Donc, nous considérons cette question comme étant extrêmement importante. Patrick, au micro, merci beaucoup. Si vous voulez lire le SAC 73, vous verrez que ce que l'on y souligne, c'est que les questions dont il est question dans ces 5 recommandations visent à ce que, par exemple, l'équipe de conception démontre qu'ils prennent en considération chacune de ces questions. Bien sûr. C'est difficile de définir ce que sont les risques acceptables, mais voilà le type de choses sur lesquelles on sera ravis de continuer à parler avec vous. Mais si ça vous intéresse, lisez le document SAC 73 qui présente le point de vue actuel du SAC sur ces 5 recommandations. Achat au micro. Merci beaucoup, Patrick. Je vais orienter le conseil d'administration sur cette question. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Patrick au micro, merci beaucoup. Nous avons pris un petit retard de 15 minutes. Merci aux membres du conseil d'administration et merci à tous de votre participation.